Bonjour. C'est bien ici la bibliothèque municipale?
Oui, monsieur, c'est ici.
Wow, c'est beau, hein? C'est super bien décoré, c'est vraiment beau, ouais.
Est-ce que je peux vous aider?
Ah ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je souhaite ça à personne.
C'est pour ça que je dis jamais rien. C'est un vrai piège à con, cette histoire-là. En plus, je sais pas lire.
Bonjour, bienvenue dans votre émission Délivrez-vous, votre rendez-vous mensuel sur Principe Actif, en compagnie des bibliothécaires du sud de l'Eure. Aujourd'hui, nous avons Pauline
de Verneuil, bonjour à tous.
Anaïs
de Verneuil aussi, bonjour, bonjour.
Anne-Marie
de Danville, comme une nouvelle de Ménil-sur-Iton.
Élie
de Breteuil, bonjour tout le monde.
Amélie
de Breteuil également, bonjour. Et Sandrine
de Bourthe.
Malraux a dit « L'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme ».
Donc aujourd'hui, nous allons parler art. Nous ne pouvions pas évoquer ce sujet sans passer par Paris, où nous suivrons Élie dans les rues de la capitale à travers un road trip policier plein de poésie. Puis nous ferons une première pause au musée du Louvre. Pour les jeunes et les moins jeunes, nous vous proposerons avec Amélie d'aborder l'art de manière ludique. Si vous aimez la peinture et les mangas, alors là, Pauline va vous gâter et surprendre les autres. Puis nous retournerons un moment au Louvre où nous découvrirons un monde secret. Ensuite, nous remonterons le temps avec Anne-Marie qui mènera l'enquête. Nous serons alors projetés dans l'univers de l'Amérique des années 30. Nous reviendrons en France avec Anaïs qui nous ouvrira la porte de l'atelier de peinture des élèves femmes de l'école des Beaux-Arts. Et pour finir, Élie nous emmènera aux Pays-Bas pour entrer dans l'univers du maître de la lumière, Vermeer. Que de voyages en perspective. Et comme l'a si joliment dit Épictète, savoir écouter est un art, alors ouvrez grand vos oreilles.
Bonjour, je rapporte le livre que je vous ai emprunté.
Comment ça déjà?
Oh, je l'ai dévoré en une nuit. Vous avez quelque chose d'autre?
Depuis hier, non, hélas.
Ça ne fait rien, je prendrai celui-là.
Celui-là? Mais tu l'as déjà lu deux fois.
C'est mon préféré.
Alors, est-ce que vous vous souvenez du tout petit Africain qui a réussi à délivrer son village, de la domination d'une méchante sorcière?
Kirikou.
Ah, donc tout le monde le connaît, ça me fait plaisir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire de deux frères qui s'en allèrent à la recherche d'une fée légendaire aux confins du pays des mille et une nuits?
Frère des ours.
Azur et Asmar, pour ceux qui ne connaissent pas.
Ah, nous.
Donc du coup, ces sublimes films d'animation créés de main de maître par Michel Oslo, un réalisateur de films animés français, Cocorico, que je considère moi-même comme des œuvres d'art, tant les histoires semblent tout droit sorties d'un recueil de contes. Les décors sont colorés et empreints d'une touche artistique propre au réalisateur, et surtout la féerie et le charme qui s'en dégagent. Mais trêve de blabla, je vais vous présenter du coup son dernier long métrage sorti en 2018. Je parle bien sûr de Dilili à Paris. Donc dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la petite Dilili mène une enquête sur de mystérieux enlèvements de fillettes. Elle rencontrera des hommes et des femmes extraordinaires qui lui donneront des indices. Elle découvrira sur Terre des méchants très particuliers, les mâles maîtres. Les deux amis devront lutter avec entrain pour résoudre ce mystère. Et dans ce film, on retrouve la touche artistique de son œuvre Azur et Asmar, avec cependant un nouvel effet artistique qui consiste à incruster l'animation en fait, dans des photos retouchées de lieux et de monuments parisiens, ainsi que des ambiances d'époque intégrées au décor. Donc ces derniers, basés sur des prises de vue réelles de Paris, font la part belle aux monuments de style Art Nouveau. Bref, c'est une capitale en pleine expansion artistique et architecturale qu'on retrouve dans ce film. Alors évidemment, je m'arrêterai sur les décors mis en scène dans le film, comme l'Opéra Garnier, la Tour Eiffel, le Moulin Rouge, décor typique de Paris, et magnifié par le réalisateur, mais aussi les dessins de la main de Michel Oslo qui arriverait, bon, franchement, à sublimer n'importe quoi. Et on le voit déjà par rapport à l'héroïne Dilili avec sa jolie robe blanche en dentelle, son nœud doré dans ses cheveux, ou encore sa belle ceinture rose volant derrière elle. Enfin, évidemment, qui dit fin de siècle, dit mouvement artistique à foison, et les artistes qui y vont avec. Donc ainsi, dans sa course-poursuite, dit Lili fera la rencontre de Marcel Proust, de Colette, d'Auguste Rodin, de Camille Claudel, ou encore de Henri de Toulouse-Lautrec ou Sarah Bernhardt, et bien d'autres qui l'aideront dans son aventure. Donc d'autres sujets seront mis en avant dans ce film d'animation, comme le colonialisme, pardon, le racisme, qui sont des sujets d'époque, malheureusement. Dit Lili elle-même vient d'un zoo d'exposition situé à l'Expo Universelle, mais que Michel Oslo voulait vraiment mettre en scène dans le film pour à la fois dénoncer, mais aussi créer un véritable réalisme dans le film. Donc malgré tout, ce film est une joyeuse ode à l'art dans toutes ses facettes, que ce soit la peinture, la sculpture, la musique, l'architecture, la littérature, la mode ou encore le cinéma. Et ce fut un film qui cartonna en France, d'où les critiques élogieuses. CNews fait l'éloge d'un film splendide et féministe. Télérama évoque un travail graphique stupéfiant. Guimette Audicino, pardon, apprécie également la mise en scène de Marie Curie et d'Emma Calvé comme héroïne, que le réalisateur dessine avec énormément de respect. Bref, l'abondance des références fait du film un véritable objet culturel à partager entre les enfants et les parents. Et ce film, en plus, est disponible à Breteuil ainsi que sur la médiathèque numérique et à Verneuil. Donc, n'attendez plus pour en avoir plein la vue.
C'est un magnifique film d'animation.
Ouais, très très joli, oui.
On va rester à Paris. Je vous emmène au musée du Louvre avec Jocelyn Guillois pour un roman inspiré de faits réels qui commence en été 1939. Donc, c'est un journal intime de trois femmes dont le point commun est un homme, Jacques Jaujard, haut fonctionnaire, directeur des musées nationaux et notamment du livre. Donc moi, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur cet homme. Dès 1938, Jaujard est persuadé que les accords de Munich ne pourront pas sauver la paix. Il n'aura alors qu'un seul objectif, protéger les œuvres du musée du Louvre, anticipant ainsi le pillage allemand qui auront lieu sous l'occupation. La solution, c'est l'évacuation d'un maximum d'œuvres. Compte tenu de la dimension de certaines d'entre elles, comme les Noces de Cana, de presque 7 mètres sur 10, de la Victoire de Samothrace, 5,57 m de hauteur pour 30 tonnes de marbre, mais également de la fragilité pour d'autres comme le radeau de la Méduse, qui n'a pu être enroulé mais qui a dû être transporté dans son cadre, juste 4,91 m sur 7,16 m. On peut imaginer l'organisation minutieuse et l'ingéniosité dont a fait preuve Jaujard et ses collègues. Plus de 37 convois sont partis du Louvre pour près de 4000 œuvres déplacées et ainsi sauvées. Une fois la guerre terminée, il aura quand même fallu une année entière pour que les œuvres retournent au musée. Juste pour vous donner un petit aperçu. Donc le roman commence en août 1939, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Tour à tour, nous sommes transportés dans l'intimité de trois femmes. Il est divisé en trois parties. Nous entrons tout d'abord dans le journal intime de Marcel Jaujard, son épouse, pendant l'évacuation des œuvres. Puis nous arrivons au printemps 1940 avec le journal intime de Carmen Leloup, sa nièce, de 13 ans, au château de Chambord, où sont entreposées la plus grande partie des œuvres. Et enfin, nous sommes en hiver 1942, dans le journal intime de Jeanne Boitel, comédienne très réputée à l'époque et résistante, et qui deviendra finalement sa maîtresse. Donc le roman nous transporte dans une promenade insolite entre toiles et statues. Si vous voulez aller plus loin dans cette lecture, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit, soit Google, soit une encyclopédie à côté de vous. Parce qu'on fait Guillois fait quand même un recensement de beaucoup d'œuvres. Donc, ce n'est pas toujours évident de savoir de quoi on parle. Donc, c'est bien d'avoir une petite encyclopédie à côté. C'est une vraie balade, en fait, à travers ces œuvres. Donc, je vous avoue que moi, l'écriture du roman m'a fait un peu confondre réalité et fiction. Et j'ai été désagréablement surprise à un moment donné parce que l'auteur attribue une œuvre de Picasso à Matisse. En plus, c'était une erreur monumentale parce que c'est un des tableaux qui a été vendu les plus chers aux enchères. Donc, il ne pouvait pas s'être trompé. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il fasse une confusion.
Picasso et Matisse, c'est voilà. Clairement pas la même chose.
Donc, à la fin, l'auteur quand même donne des explications.
Pas de spoiler.
Non, je m'arrête là. Donc pour ce premier roman, Jocelyn Guillois nous transporte non seulement dans l'histoire des arts, mais il nous plonge également dans la condition féminine de l'époque. C'est un vrai régal de lecture, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'écriture sensible de ce tout jeune auteur. Donc l'ouvre Jocelyn Guillois chez Seuil.
Disponible à Bourthe donc.
Voilà, c'est ça.
Puis c'est peut-être bien aussi d'avoir, comme tu disais, une encyclopédie, oui, ou même Google, juste pour voir aussi toutes les œuvres,
complètement, ouais,
dont il parle, parce que Si en plus, je veux dire, tous les...
Il y a vraiment une énumération, à un moment donné, on s'y perd un peu. Enfin, perso, bon, j'en connais quelques-uns, mais vraiment, faut vraiment être...
calé, quoi.
Voilà, calé pour... Il y a tellement d'énumérations qu'à un moment donné, voilà, c'est bien d'avoir les deux. Ou de le lire deux fois, en fait. Je pense qu'il faut le relire une deuxième fois. Moi, j'ai envie de le relire une deuxième fois, en tout cas.
Donc il y a vraiment une partie, enfin une part documentaire pratiquement dans cette fiction.
Oui, oui, c'est pour ça, je te dis, à un moment donné, je me suis perdue entre la réalité et la fiction. Je dis, c'est pas possible qu'il fasse cette erreur-là, quoi. C'est... Voilà, on a l'explication après. Voilà.
Vous venez d'écouter Viva la Vida de Coldplay.
Oh, c'est dingue, t'aimes pas lire. T'as pas lu Proust? Oh là là, je te crois pas.
N'importe quoi.
Alors, je vais vous emmener faire un petit tour dans un livre-jeu. qui s'appelle Eurekart de Philippe Brasseur. Il est sorti en 2016 aux éditions Palette. Donc c'est un très beau documentaire dans la lignée de la revue spécialisée Dada sur l'art, donc je ne sais pas si vous connaissez, qui permet de découvrir, interpréter, détourner, aussi imaginer et jouer avec les œuvres d'art. Donc c'est un livre qui permet de faire découvrir l'art aux enfants de façon ludique. Il est une excellente base pour l'éducation artistique. On pourrait le conseiller à partir de 8 ans. Les enfants pourront découvrir des œuvres, mais également faire travailler leur imagination à partir de petits jeux qui aiguiseront certainement leur curiosité. Alors, comment ça marche ? Il a un format original à manipuler qui en fait plus un jeu finalement qu'un livre. Donc, les pages sont découpées en deux parties et sont composées de deux rabats à tourner qui permettent des combinaisons. Donc, il est sous forme de spirale. En haut, on a un tableau qui est représenté. À gauche, il y a une petite fiche qui donne tous les renseignements utiles sur l'œuvre, dont d'ailleurs le lieu de conservation, précision qu'on n'a pas toujours. Et ensuite, l'œuvre s'étend à droite. Donc on a le plus souvent une peinture, mais on a aussi du land art, une lithographie et plein d'autres choses. Donc c'est assez varié. En bas, sur le second rabat, on a une petite consigne qui est proposée pour apprendre à poser un regard créatif et personnel sur les œuvres d'art. Donc il y a 30 questions qui sont ainsi posées au lecteur et avec des petits encouragements qui sont assez amusants. Donc, les demandes sont variées et parfois surprenantes. Donc on peut trouver « On vous offre cette œuvre, où allez-vous l'accrocher ?» Ou alors « Cette image illustre un jeu, expliquez le but du jeu et les règles. » À votre avis, pourquoi l'artiste a-t-il choisi ces couleurs ? Qu'est-ce que l'artiste a choisi de ne pas représenter ? Voilà, donc c'est vraiment varié et le but, c'est vraiment d'ouvrir la discussion et de laisser place à l'imagination. Donc les œuvres proposées couvrent une période de temps assez longue et des peintres qui appartiennent à des courants divers. Et on mêle donc culture artistique et regard créatif. Donc c'est vraiment intéressant de jouer à ce jeu à plusieurs avec des enfants et des adolescents pour multiplier et confronter les points de vue. Attention, merci d'assurer un cadre de bienveillance sans moquerie entre les enfants. Voilà, c'est également amusant de réitérer l'expérience avec les mêmes tableaux et les mêmes consignes, mais plus tard, pour voir si le regard a changé et si la perception a évolué avec le temps. Donc c'est un livre où c'est le spectateur, ou lecteur, qui est au centre. On s'intéresse à ce qu'il voit, à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent face à une œuvre d'art. Et donc tout ça à travers le jeu et l'imaginaire. C'est deux clés en or pour entrer dans le monde de la création. Donc un livre dont vous êtes l'acteur, où c'est vous qui écrivez l'histoire en racontant ce que vous y voyez. Alors quel a été l'objectif de Philippe Brasseur ? Donc il dit que son objectif, c'était de nous permettre d'exprimer de manière aiguisée et personnelle ce que nous voyons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons face à une œuvre d'art. C'est vrai que je ne sais pas si ça vous le fait, mais personnellement, quand je me retrouve devant un tableau, c'est parfois difficile de trouver les mots pour exprimer ce qu'on ressent face à quelque chose qui est finalement inanimé. On a l'habitude de le faire avec des êtres humains avec qui on a des interactions. Mais c'est vrai que face à un tableau, c'est parfois difficile d'aller au bout de sa réflexion. Donc ça permet de le faire de façon ludique et vraiment sympathique. Donc je vous le conseille, vous pouvez le trouver à Breteuil et à Bourthe. Voilà.
Et ça du coup, permet aussi certainement de décrisper un peu l'art parce que comme tu dis, parfois on est bloqué, on sait pas, on n'a pas été habitué en fait à.
On n'est pas forcément habitué
à s'exprimer devant de l'art, donc ouais, ça a l'air vraiment bien.
Ouais, c'est vraiment ludique et du coup, on peut vraiment mixer. Enfin, il y a tout un panel de possibles parce que chaque question peut aller pour chaque œuvre. Donc, on multiplie le champ des possibles et c'est vraiment intéressant. Donc, il y en a qui sont plus ou moins difficiles pour se projeter. Mais voilà, après, on peut adapter en fonction des enfants, faire des présélections pour amener quelque chose de plus simple et aller vers le plus compliqué après en fonction de voir si ils sont à l'aise ou pas avec le mécanisme.
Puis justement, c'est une bonne initiation aussi pour tout âge, finalement. Oui. Parce que tu disais, même pour les adolescents et adultes, c'est vrai que c'est intéressant parce que vraiment, personne n'a la même perception d'une œuvre.
C'est
que
ça.
Que soit une peinture, une sculpture.
Et puis on enrichit ses connaissances personnel.
Mais
et
c'est
culturel.
Ça, non, c'est un très bon documentaire, je pense.
Ouais, il est vraiment bien fait. Donc je vous le conseille vivement.
Moi, je vous propose un autre jeu. Ça s'appelle Cherche l'erreur. Les 7 erreurs dans l'art. Donc moi, j'ai un spécial pari.
Alors, ça se présente comme ça. À gauche, vous avez le tableau original avec sa légende. Et à droite de la page, le tableau avec les 7 différences à trouver. Donc, on a des œuvres de Camille Bombois, Le Sacré-Cœur, Picasso, Notre-Dame de Paris. On a également des sculptures, gargouilles de Notre-Dame de Paris. Donc, l'idée, voilà, chercher l'erreur, 7 à trouver. Donc, c'est très intéressant pour pouvoir découvrir une œuvre. Parce que ça permet vraiment de la visionner au fin fond. De ne pas la regarder comme ça.
Ouais, d'aller dans le détail. Voilà,
superficiel. Ça permet d'aller vraiment dans le détail et de découvrir des choses qu'on n'avait pas vues au premier regard. Et pour ceux qui n'arriveraient pas, à la fin, il y a les solutions.
Ah oui, quand même.
Mais bon.
T'as essayé ? C'est dur à trouver ou pas ?
Non, ça dépend des...
Ça va ?
Non, ça va.
Dépend des tableaux.
Mais bon, ça va aussi bien pour les enfants que pour les grands. Il n'y a pas de...
Et puis les peintures qui sont dans le... Enfin, les peintures, pardon, les œuvres qui sont présentes, c'est quand même des choses assez connues ou il y a aussi des trucs moins connus?
Non, regarde, là, j'ai Hubert Robert, projet d'aménagement de la Grande Galerie du Louvre, mais 1789, perso, je ne connaissais pas, je vous montre. Ouais, Il regarde.
J'ai trouvé une erreur.
Ça y est, ils ont trouvé l'erreur.
Et plus qu'une des erreurs.
Plus que 6, je te le prêterai après, t'inquiète. c'est « Chercher l'erreur, les 7 erreurs dans l'art », paru chez Milan, dispo
à Bourthe.
Bon, mais ils vont bientôt se procurer dans les autres médiathèques, je suis sûre.
Alors juste, faut pas entourer les erreurs quand on les a trouvées.
Ah, masse, zut.
Oui, voilà, s'il vous plaît.
J'ai eu le coup, on m'a rendu un « Où est Charlie ?» avec tous les Charlie entourés, et c'était pas terrible.
Non,
oh,
pas non.
Non, ne faites pas ça, vous les notez à côté.
my mind. Art pop, you make my heart stop.
C'était Art Pop de Lady Gaga.
Alors, il en a combien des livres? Il en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres. Partout, alors. Hein? J'ai acheté les mémoires de Poulidor, il n'a même pas lu.
Tu n'as même pas lu ce que t'as acheté ton père? Est-ce que tu as lu les mémoires de Poulidor?
Non, c'est pas au programme à l'école.
C'est pas au programme à l'école.
Ça non plus, c'est pas au programme. Dis donc.
Tiens,
alors.
Sans plus.
Ah, mais dis donc.
Alors, je vais vous présenter un documentaire atypique sur la peinture. Son titre dit tout. Quand le manga réinvente les grands classiques de la peinture. Publié chez Mana Books. 43 tableaux classiques ont été redessinés par des illustrateurs de manga à la sauce manga. A priori, une drôle d'idée. Le dessin numérique des mangaka étant très éloigné des tableaux des grands maîtres. Les commanditaires de ce livre s'expliquent dans la préface. Je cite donc. Le numérique a certes l'avantage d'être facilement accessible, mais c'est aussi son plus grand défaut. En s'en remettant au logiciel, on finit par perdre une patte, une originalité, et on s'abîme dans la facilité, là où les peintres d'antan réalisaient des peintures bien plus profondes. D'un autre côté, il permet de s'affranchir des difficultés techniques et de compenser les points faibles de l'artiste. Nous avons donc cherché ce qui pourrait combler ce fossé entre la peinture classique et le dessin numérique. C'est ce qui nous a amené à nous pencher sur la reproduction d'œuvres classiques. Fin de citation. C'est ainsi que le club Mpitsu, grand groupe d'artistes japonais derrière ce documentaire, propose un dossier de 4 pages intitulé « Copions les chefs-d'œuvre de la peinture », dans lequel ils expliquent que la copie, l'imitation, l'influence, appelez ça comme vous voulez, a toujours fait partie de l'art, les peintres s'inspirant les uns des autres. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'est né le courant du japonisme. Des peintres occidentaux, Monet, Van Gogh, Renoir ou encore Klimt, ont imité des œuvres japonaises, les ukiyo-e. Ah, je suis désolée, j'ai absolument pas la culture japonaise. Je suis désolée si j'écorche les noms.
C'est un non. Pokémon, non?
Tout à fait. Peu, ouais. En plus de ce dossier fort intéressant, le documentaire propose aussi 4 pages de chronologie d'histoire des arts et de définition des mouvements artistiques, ce qui en fait vraiment un documentaire complet sur la peinture. Puis on entre dans le vif du sujet, avec une quarantaine de doubles pages de tableaux classiques et leur version manga. Pour chaque tableau, une pleine page pour mettre en valeur l'imitation version manga. Sur la page d'en face, le tableau original et une dizaine de lignes pour présenter le peintre, son œuvre et ses influences. En tout, ce sont 40 illustrateurs contemporains différents pour autant de styles artistiques. On passe de la représentation mignonnette du shoujo au style fantasy très guerrier, en passant par quelques réadaptations se détachant du style manga. Bref, c'est un ouvrage à feuilleter par curiosité pour son originalité ou à dévorer pour sa documentation sur l'histoire des arts et les œuvres. Et pour ces raisons, quand le manga réinvente les grands classiques de la peinture, est parfait pour faire découvrir l'art aux pré-ados et ados grâce au manga. Ça associe vraiment deux styles très différents et ça peut donc les attirer, davantage qu'un ouvrage un peu plus classique.
Et il est disponible à Verneuil. Et c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est pas mal pour vraiment les pré-ados, adolescents qui commencent à découvrir un peu plus la lecture, notamment par les mangas, et qui s'intéressent peut-être pas vraiment à l'art et qui peuvent redécouvrir des peintres célèbres. C'est une c'est bonne ça. Façon de se documenter.
En fait, moi-même. Moi-même, c'est je dur. L'ai fait. Tout le monde est malade aujourd'hui.
Non, moi, ça va. Je survis.
Pour l'avoir moi-même feuilleté, on tombe sur une copie de tableau. On se dit, oh là, c'est joli et tout. Et du coup, automatiquement, on va aller regarder, glaner un peu des informations sur le tableau original. Donc, c'est vraiment très bien fait.
Non, ça a l'air, ouais.
Ça donne envie, en tout cas.
Tout ouais. à fait.
J'avais été voir un petit peu, quand j'ai vu que tu présentais ça, je suis allée voir un peu. Effectivement, ça permet vraiment de faire le lien, en fait, entre les deux. C'est ça.
Puis je pense que c'est intéressant aussi visuellement voir les représentations.
Oui. Mais même en tant qu'adulte, hein, je trouve
bah
ça.
Oui, c'est ça, bien sûr. Ouais.
C'est pas que les enfants, enfin pas que les jeunes.
Non. Parce que c'est vrai que c'est les assez innovant, aussi. Quoi.
Là, je voulais pas apporter parce qu'il est emprunté par une enseignante qui va travailler sur Monet. Il y a deux
copie de, des tableaux de Monet, donc elle va l'utiliser dans sa classe. C'est vrai que c'est une approche originale.
Oui, et puis c'est un, bah, là, pour le coup, c'est un bon support aussi pour les enseignants. Les enseignants,
tout à fait.
Et les mangakas qui sont présents, enfin, leurs œuvres qui sont présentées dans le livre, est-ce que c'est des mangakas connus? Ou est-ce qu'il y en a par exemple des Français aussi?
Alors non, c'est vraiment que des Japonais.
Que des Japonais.
Après, si tu me demandes s'il y a des connus, ma connaissance des mangas étant très très limitée, je ne sais pas. Et j'ai pas eu la curiosité d'aller, d'aller regarder leur œuvre.
Oui.
Parce que déjà, ils sont 40.
Oui.
Donc, je peux pas te dire.
D'accord. Okay.
Quelqu'un de plus expérimenté pourra te dire.
D'accord.
Donc, moi, je vais ramener les enfants encore au Louvre.
Décidément. Mais c'est très bien le Louvre.
C'est tellement vaste que. Donc, je vais vous parler de, d'une BD, d'une série, Les Souris du Louvre, de Joris Chamblin, scénariste, l'illustratrice est Sandrine Gaëlec. Goalec, pardon. Pour sa nouvelle série, le scénariste donc, des carnets de cerises puise son inspiration dans le plus célèbre musée du monde, donc, comme je vous l'ai dit, le Louvre. Bien, il y en a qui suivent, pas tous. Hein.
Mais si, si.
Donc, il y développe un univers fantastique où les souris vénèrent et protègent l'héritage de l'humanité. Joliment mis en image par Sandrine Goalec. Le scénario s'avère plein de charme et de mystère. Avec finesse et intelligence, les auteurs nous entraînent le lecteur à la découverte du Louvre et de ses œuvres, mais également des civilisations anciennes au travers d'un récit d'aventure truffé d'éléments qui titillent notre curiosité. Donc le tome 1, Milo et le monde caché, est sorti en novembre 2018. On fait la connaissance de Milo, un jeune garçon qui a grandi dans l'amour de l'art et qui ne manque jamais l'occasion de communiquer sa passion à ses camarades. Milo connaît bien le musée du Louvre où il passe les après-midi avec sa nounou qui vient faire des croquis et où travaille sa mère en tant que conservatrice. Son dernier exposé sur le Louvre ne traite pas des œuvres, mais du public qui les regarde. Et sur certaines photos qu'il illustre, une de ses camarades lui fait remarquer la présence d'une souris qui semble l'observer. Il est également ami avec un gardien à la retraite, Henrik, qui lui raconte des tas d'histoires sur les œuvres et sur ce lieu fabuleux. Milo lui montre donc les photos. Il va alors lui révéler l'existence d'un monde secret qui se cache au Louvre. Voilà pour leur premier tome. Le deuxième s'intitule Le Damier de Babette, donc il est sorti en octobre 2019. Henrik n'est plus autorisé à rentrer au Louvre comme il le souhaite. Il faut tout de même penser à l'avenir de la collaboration entre les souris et les hommes et Milo fera un parfait gardien. Mais comment communiquer avec elle? Donc le deuxième tome, et il y a toujours autant de culture et d'action, tout est au rendez-vous. Donc c'est une BD divertissante, parfaite pour des enfants à partir de 8 ans. Elle a en plus le mérite de faire découvrir l'un des plus grands musées du monde. Donc on voyage à travers le Louvre. Un petit peu à Paris aussi, on découvre un petit peu Paris et on voit les œuvres. Elles sont reprises par l'illustratrice. Et en plus, à la fin de chaque tome, il y a un petit dossier pédagogique. Donc le premier, on retrouve l'histoire de la pyramide du Louvre et dans le tome 2, le département des antiquités égyptiennes. J'avais pas pris mon élan. voilà, donc je pense que j'espère que le tome 3 sortira en fin de cette année. Enfin, un petit bijou de BD.
Oui, ça a l'air très sympa et puis atypique en plus. Ouais, donc ça change.
Alors, ça me fait penser à Les Souris du coup du Louvre. Nous, on a une bande dessinée qui est en 4 tomes et ça s'appelle Musnay. Et en fait, ça se passe à Giverny. Et du coup, dans tout l'univers de Monet, et c'est une petite souris qui va apprendre à peindre, en fait, qui va devenir artiste. Et du coup, voilà, on est vraiment dans l'univers des impressionnistes et Giverny. Et vu qu'on est en Normandie, c'est plutôt sympa.
Tout à fait.
Mais alors, ce serait peut-être vrai, toutes ces histoires de souris derrière
ce qu'elle est.
Étrange coïncidence.
Bah oui, c'est ça.
Non, mais de toute façon, tout le monde sait que si les souris faisaient 3 mètres de haut, elles domineraient le monde. Hein. Regarde Ratatouille, tu vois. Voilà, elle sait cuisiner, il y en a qui savent peindre. Mais... Voilà.
Regarde Cendrillon, elle a la robe toute prête.
Ouais, c'est ça.
J'ai oublié qu'elle récupère quand même nos dents et nous donne des pièces en échange.
Tout à fait.
Trop fort, tes souris.
Les souris sont des vraies vedettes.
Colore le monde sans feutre, sans épreuve ni bombe. Indolore les murs et coule dans le fleuve la fracture en monnaie de singe, fraîche, blanche comme le linge. À jamais. Car le temps colore la fin.
Vous venez d'écouter Les Innocents avec Color.
Merci, merci, merci. Qui ? Les livres ! Les livres, les livres, les livres !
Je m'appelle Edward, mais vous pouvez m'appeler Eddie. Je suis détective privé. Enfin non, je ne le suis pas vraiment. Le détective, c'est mon pote Paul, mais j'ai toujours rêvé de le dire depuis que je suis gamin. Un dimanche, il y a quelques années, Paul m'a demandé de lui rendre un petit service. C'était pas grand-chose, je devais juste passer la matinée dans son bureau. Il était en filature sur une autre affaire, mais il attendait un coup de fil important. J'avais juste à rester assis devant le téléphone et prendre l'appel. Rien de compliqué. J'arrivais à 8h, à 11h, personne n'avait encore appelé. Donc ça, ce sont les deux premières pages du roman « La chanson perdue » de Lola Pearl, de David Kali et illustré par Ronan Badel, et publié par les éditions L'Élan Vert en 2018 dans la collection Pont des Arts, Les Carnets.
Parce qu'en vrai, elle s'appelle Anne-Marie, hein. c'est pas Edouard.
Comment ?
Non, c'était une petite blague.
j'ai pas compris.
En vrai, tu t'appelles Anne-Marie, pas Edouard, c'est ça ?
Ah oui, tout à fait. Oui.
Voilà, la deuxième fois, ça passe moins bien.
C'est parce que j'ai commencé par l'extrait. Donc Edward est un jeune journaliste et un jour que son ami Paul, détective privé de son état, comme vous avez pu le comprendre, lui demande d'assurer l'intendance à son bureau, il est contacté par une jeune femme. Cette dernière, confondant Edward avec son ami détective, lui fait une requête bien particulière, celle de trouver des personnes qui se souviendraient d'une certaine Lola Pearl. Edward a 5 jours pour mener à bien cette mission. De prime abord, on pourrait s'imaginer qu'il s'agit là d'un polar, tout ce qu'il y a de plus banal, même si la requête de la jeune femme, il est vrai, est bien singulière. Mais ce n'est pas sans compter sur les talents d'écriture de David Kali, qui conçoit tout un récit policier à partir de certains tableaux du peintre américain Edward Hopper. Donc nous sommes plongés dans l'Amérique des années 20 à 40, dans son architecture, son ambiance d'entre-deux-guerres, avec un récit qui rendrait vert de jalousie Dashiell Hammett, considéré comme le fondateur du roman noir. Les différents tableaux du peintre s'ancrent dans le récit d'une manière simple et élégante. On a vraiment l'impression que c'est Hopper lui-même qui a illustré le livre. Et il y a aussi donc Ronan Badel qui vient corroborer le tout en faisant des petits croquis. Des crayonnés, des touches d'aquarelle ici et là, qui donnent au livre et donc au lecteur un réel sentiment d'authenticité. Et alors donc, que dire de l'objet livre, hein, le petit carnet avec, alors celui-ci n'est pas en moleskine, mais enfin, le petit carnet avec le petit élastique sur le côté où les écrivains pouvaient noter leurs idées. Voilà, c'est une bonne manière d'initier les jeunes ou les moins jeunes à un peintre... pas si connu que ça. Donc, par exemple, la première de couverture, c'est le tableau Automate. Et on voit une femme assise toute seule à une table, le regard fixé sur sa tasse de café. Et c'est plutôt la signature d'Edward Hopper qui peint des personnages anonymes dont le visage ne trahit aucune émotion. Donc, ils sont souvent seuls. Et la solitude de ces personnages serait une façon de montrer leur intériorité et non ce qu'ils montrent de la société ou à la société. Donc, les personnages sont souvent en attente de quelqu'un ou de quelque chose. Il y en a un où on voit une femme qui sort d'une très belle maison. Donc, il y a dans cette peinture un caractère photographique. En plongée. Donc ça, c'est le cas du tableau qui s'intitule « Le village américain » en contre-plongée pour la maison au bord de la voie ferrée, qui est peut-être un peu plus connue. Donc voilà, il y a des cadrages, des effets d'éclairage, une certaine mise en scène. Et il a inspiré Hitchcock pour le modèle de la maison dans Psychose. Voilà. Donc il peint surtout la classe moyenne, et ça, c'était nouveau, dans la vie quotidienne. Donc il est aussi le témoin des mutations sociales aux États-Unis. Il a produit des huiles sur toile, des affiches, des gravures et des aquarelles. Voilà. Et il fait partie de la sélection des dévoreurs de livres dans la catégorie 6e.
C'est un très, très bon polar aussi, noir pour les jeunes. Et c'est assez étonnant. C'est vraiment une très bonne histoire derrière ça aussi. C'est un très bel objet livre, les tableaux sont très bien reproduits. Et en plus, l'histoire est très très bonne.
Oui, c'est vrai, c'est vraiment une réussite.
Ouais. Donc il est disponible à Danville,
Auteuil, Breteuil et à Bourges.
Pour petite info, il y a une exposition sur Hopper, actuellement par la Fondation Beyeler à Paris, jusqu'au 17 mai.
Donc si jamais ça vous intéresse,
merci pour l'info.
Alors, moi, je vais vous parler d'un roman pour plutôt adulte de Jim Fergus, donc c'est Crisis. Alors, Jim Fergus, c'est un auteur américain, célèbre notamment pour sa série Mille Femmes Blanches, dont le dernier roman sorti, c'est Les Amazones, en 2019. Donc, Crisis, avec marqué en sous-titre Portrait de l'amour, est son quatrième roman et il est sorti en 2013 aux éditions Le Cherche Midi. Donc l'origine de l'écriture de ce roman est racontée dès l'avant-propos et tout commence en fait par un tableau. Donc Jim Fergus et sa femme Marie, qui est malheureusement mourante, sont en voyage en Europe pour tenter de trouver un remède pour la guérir. Ils s'arrêtent à Nice, dans une boutique d'antiquités, et là, Marie tombe amoureuse d'un tableau, sobrement intitulé « Orgie », signé d'une certaine Crisis Jungbluth. Donc, après l'avoir acheté à sa femme, Marie demande à Jim de le léguer à sa fille Isabella après sa mort. Donc, c'est à partir de cette histoire vraie qu'a vécu l'auteur qu'il va faire, en fait, il va faire des recherches sur la vie de cette jeune Gabrielle, dit Crisis, et va tenter de reconstituer l'histoire de cette toile et de sa peintre. Donc, le roman, au début, en fait, il est raconté... avec un chapitre sur deux, sur deux personnages différents. Donc, les premiers chapitres, c'est sur Gabrielle Jungbluth, son enfance, et ensuite sa venue à Paris pour ses études à l'école des Beaux-Arts dans un atelier pour femmes, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas de mixité dans les écoles. Donc, même si Gabrielle a eu une enfance assez heureuse dans les Vosges en étant fille unique, avec son père, qui est un colonel de la Première Guerre mondiale, il lui a quand même inculqué une éducation très stricte. Mais c'est aussi son père qui lui a fait découvrir la peinture. C'est une passion qu'ils partagent ensemble tout le long du livre, en fait. Donc, Gabrielle est vraiment talentueuse. Et donc, elle part à Paris, où elle va étudier l'art et découvrir la ville de Montparnasse, qui regorge d'artistes, de bohèmes, une vie libre, qu'elle a de plus en plus envie de découvrir. C'est aussi à ce moment-là qu'elle va se faire appeler Crisis. Donc je vous en dis pas plus sur le comment et le pourquoi de ce nom, c'est dit à peu près à la moitié du roman. Et c'est cette vie libre, rebelle et assez désinvolte qui va l'inspirer notamment pour ses peintures. Alors quand on recherche sur Google Crisis Jungbluth, on trouve pas grand chose à part ce tableau en fait, l'orgie qui a été reconnu on va dire après ce roman. Et ensuite, les autres premiers chapitres se concentrent sur un personnage masculin, Bogey Lambert, un Américain du Colorado, qui est en fait un jeune homme rêveur et complètement naïf, avec des allures de cow-boy. Et il a découvert qu'il avait des origines françaises, et il décide d'intégrer la Légion pour venir en aide à la France pendant la Première Guerre mondiale avec son cheval Crazy Horse. Donc, quelques années après la guerre, lui aussi se retrouve à Paris. Donc, forcément, Crisis et Bogey vont se rencontrer et s'ensuit une histoire d'amour passionné dans un Paris bohème, un peu à la Moulin Rouge, mais après la Première Guerre mondiale, où la peinture et l'art en général prennent une place importante. Donc, la figure de Gabrielle Crisis, Jungbluth, que reconstitue Jim Fergus, elle est très moderne, féministe et très indépendante. C'est vraiment une vision avant-gardiste pour l'époque, parce que bon, ça se passe quand même après la Première Guerre mondiale, donc les femmes n'avaient pas beaucoup de liberté à cette époque-là. Et il y a quand même certains passages où le personnage est assez hautain, présomptueux, mais il y a aussi des prises de conscience de son ignorance sur certaines choses. Comme par exemple son inexpérience sexuelle lorsqu'elle tombe amoureuse de Bogey. En fait, à un moment, elle le voit, c'est un peu le coup de foudre pour elle. Et elle va voir un de ses amis, elle a une vingtaine d'années, donc elle est vraiment toute jeune. Elle va voir un de ses amis, elle lui dit, voilà, je viens de tomber amoureuse, mais je suis vierge. Qu'est-ce que je fais, quoi? Donc c'est, voilà, il y a des petits moments comme ça, un peu cocasses, et où en fait, il y a vraiment un balancement entre son caractère très sûr d'elle, très hautain, et puis voilà, sa petite innocence, parce que finalement, elle est quand même jeune, quoi. Donc c'est un roman qui est quand même embelli par l'histoire personnelle de l'auteur, par les raisons de son écriture. Enfin voilà, malheureusement sa femme est décédée et donc il a légué le tableau à sa demande, donc à sa fille. Et c'est vraiment, enfin c'est une belle histoire, l'avant-propos est donc inévitable à lire, hein, clairement. Et c'est ça donne encore plus de force en fait au roman. Et bon, il y a quand même des longueurs, notamment dans les descriptions et les énumérations des rues où Chrissy passe. Enfin, je veux dire, quand on n'est pas parisien et qu'il dit « Oui, alors elle tourne à droite sur la rue, machin. » Ouais, bon, c'est pas utile, quoi, oui, concrètement.
Oui, c'est assez. Il faut prendre le livre et le lire en marchant.
Bah écoute, peut-être.
Avec la carte de Paris à côté.
C'est ça, ouais.
Après avoir suivi les tableaux du Louvre.
C'est ça. Mais bon, quand même, le livre se lit très bien, l'écriture est fluide et c'est un bon moment de lecture avec des références aux grands peintres de l'époque, comme par exemple Picasso ou Georges Braque, qui est cité à plusieurs reprises, notamment parce que l'enseignant de Chrissy était l'enseignant aussi de Georges Braque. Voilà, donc Chrissy de Jim Fergus est dispo à Verneuil.
Alors, donc moi, je vais poursuivre en vous posant une petite question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, devant une œuvre d'art, quelle est son histoire ?
Oui. Bah oui.
Alors, je ne parlerai pas de la Joconde, de l'artiste italien Leonardo da Vinci, qui nous suit littéralement de ses yeux mystérieux, et ce peu importe l'angle de vue qu'on lui prête. Mais je vais m'arrêter un instant sur La jeune fille à la perle, de l'artiste néerlandais Johannes Vermeer, connu aussi pour ses autres œuvres d'art comme La laitière, qui fut utilisée par la marque Nestlé, qu'on connaît tous.
Pas de pub.
Non.
En plus, ça va nous donner faim.
Donc, revenons à La jeune fille à la perle. Pourquoi une jeune fille ? Pourquoi est-elle de profil ? Pourquoi une perle à son oreille ? Et c'est l'auteur britannique Tracy Chevalier qui s'est penché sur l'histoire de la peinture et nous livra en 99 une histoire inspirée de l'œuvre d'art portant le même titre que la peinture en question. Donc, nous sommes en 1664. Griette, jeune fille curieuse et timide issue d'une famille pauvre de Delft en Hollande, est engagée comme servante dans la maison de Johannes Vermeer pour s'occuper des 6 enfants de la famille et surtout pour faire le ménage dans l'atelier du peintre. Devant s'intégrer dans la maisonnée, entre Katharina Bons, l'épouse de Vermeer, la mère de celle-ci, Maria Tins et la servante Tanneke, sans compter Cornelia, une des filles, elle doit faire profil bas. En fait, il y a plein de filles partout et elle a un petit peu de mal à trouver sa place, la pauvre petite. Mais Vermeer comprend rapidement les qualités de Griette, sa discrétion et son intérêt pour la peinture. Et celui-ci, sentant le potentiel artistique qui se dégage de la jeune fille, lui fait découvrir petit à petit les rudiments de l'art qu'il exerce. Alors, évidemment, il va se créer une certaine proximité, évidemment. Et ça va entraîner de nombreuses tensions au sein de la maison des Vermeer, ainsi que des rumeurs qui vont rapidement se propager en ville. Donc, le roman est écrit à la première personne. On découvre comment Griette s'immisce dans l'intimité d'une famille catholique hollandaise au XVIIe.
T'as failli faire un petit lapsus, là.
Ah, ah bon. Je m'en suis même pas rendu compte. Faudra que tu me dises après quel est le lapsus, parce que je ne le vois pas du tout. Donc, et comment elle découvre l'art de la peinture aux côtés de son maître. Donc, le roman est divisé en 4 chapitres, 1664, 65, 66 et 1676. Les 3 premiers correspondant aux 3 années où Griette était au service des Vermeer, et le dernier faisant un bond dans le temps de 10 années. Le roman était grandement salué par les critiques et les lecteurs. Il est devenu rapidement un best-seller après sa sortie et a été acclamé dans de nombreux pays. Alors par exemple, USA Today l'a appelé « roman exceptionnel », tandis que le Miami Herald l'a qualifié de « bijou de roman ». Rien que ça. Le roman a été traduit en plus de 36 langues et édité à plus de 3 millions d'exemplaires et a même eu droit à une adaptation cinématographique avec dans le rôle de Griette l'actrice Scarlett Johansson et dans le rôle du peintre Vermeer l'acteur Colin Firth. Voilà, c'est ça. Donc Tracy Chevalier, depuis longtemps passionnée par les œuvres de Vermeer, affirme qu'elle décida d'écrire l'histoire de la jeune fille en regardant un poster du tableau allongé sur son lit en se demandant ce que Vermeer avait pu dire ou faire pour qu'elle ait un tel regard. Je cite « J'ai écrit ce livre parce que j'ai toujours été fasciné par le tableau de Vermeer, la jeune fille à la perle. À quoi pense-t-elle? Parfois elle semble vouloir séduire, parfois elle paraît triste, parfois on croit qu'elle a 13 ans et d'autres 30 ans. Je me demandais ce que Vermeer avait bien pu dire ou faire pour qu'elle ait un tel regard. De cette interrogation est né ce roman. » Fin de citation. Encore une preuve que l'inspiration est un formidable don dans le domaine artistique. Une création datant du XVIIe siècle mena à une autre création, que demander de plus? Le roman est disponible uniquement à Breteuil, donc si vous avez l'inspiration qui vous démange, que vous avez un attrait pour les œuvres d'art hollandaises, ou tout simplement vous avez envie de suivre mon conseil, je dis pas que des bêtises, passez à Breteuil.
Ou à Verneuil, aussi... ou oui. à Danville.
T'as mal révisé, hein?
Ah oui, en effet.
Non, mais...
S'il te plaît, passez aussi à Verneuil ou à Danville.
Ouais, mais... Bon,
tour passera. Voilà,
pas à Mais j'en ai d'autres.
Ah, mais le souci, c'est que si je disais pas monter jusqu'à la fin, j'aurais plus rien à dire au bout de 10 minutes. Donc, ça aurait été très rapide. Mais c'est bien comme ça, ça vous permet de mettre en avant vos bibliothèques à vous aussi.
Tout à fait, c'est le but.
Pourquoi tu...
Merci, Ellie.
De rien.
Pourquoi tu portes des lunettes?
Pour lire.
Voilà.
Pour lire. Mmh. Hein, tu sais lire, toi?
Et ben voilà, donc je m'y colle. C'est la fin de notre émission. Alors, petit rappel sur les animations à venir. On a cette semaine le tournoi de rétro gaming qui se déroule à Danville, avec les qualifications samedi après-midi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et la grande finale qui aura lieu à Bourthe le samedi 22 de 14h à 17h.
Voilà. À partir de 14h, c'est ça.
À la salle des fêtes.
C'est donc gratuit, venez nombreux, même si vous n'avez pas joué. Vous voilà. Supportez les autres.
On attend des supporters.
C'est ça.
Vous pouvez venir déguiser si vous le souhaitez.
Déguisant au Pac-Man. Et à Verneuil, jusqu'au 29 février, il y a une exposition de la photographe amatrice Cathy Gilbrun sur la nature et l'antan. Voilà. Donc venez, c'est gratuit aussi. Et là, c'est donc aux horaires d'ouverture. Et Cathy est là aussi, si jamais vous avez envie d'acheter une de ses photos, parce que toutes les ventes sont au profit de l'ANCC, l'Association Nationale des Cardiaques Congénitaux. Voilà, donc si une photo vous plaît, vous l'achetez, vous avez une super belle photo pour accrocher chez vous, et en plus, vous faites une bonne action. Voilà.
Donc c'est tout bénéf.
C'est ça.
Anne-Marie, vous n'avez pas quelque chose?
On s'excuse pour nos toux intempestives. On espère revenir en forme la fois prochaine. Et on va saluer Ellie qui nous quitte, pour qui c'était sa dernière émission.
Ce n'est qu'un au revoir, Ellie. Ce n'est qu'un au revoir.
Peut-être reviendras-tu en invité d'honneur.
Oh, qui sait?
Si t'as envie de parler, tu peux venir.
Écris des livres.
Le micro est ouvert pour toi.
Voilà. J'ai des idées.
Écris un livre.
Bah oui.
J'ai vécu pas mal de choses récemment qui je pourrais dire que j'ai beaucoup de choses à mettre sur papier. Beaucoup de choses.
Et ben voilà.
Même si tu veux parler d'autres livres, hein, tu peux venir, le micro sera ouvert pour toi.
Oh, c'est gentil.
Ou ouais, enfin, on va se calmer. Hein. Et on n'en a pas assez dans le studio, donc... Toujours.
Donc on se retrouve le mois prochain pour une émission sur le thème de l'enfance et du coup, entre femmes. Désolée Damien.
Non, avec un invité spécial.
Ah, c'est confirmé du coup ?
C'est confirmé, tout super. À fait. Bon. Donc ce sera Guillaume Thielleu.
Du RAM de Verneuil, c'est
responsable du RAM de Verneuil, tout super. À fait.
Donc un invité pour la fois prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
À bientôt. You up in boom, boom, bow, shaboom, boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Oh, 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 life could be a dream. And I think I'm planned to come true.